Oui, concernant les questions qui portent sur la conférence introductive et sur la conférence d'Alain Fernex, on les a regroupées juste après celle de donc la conférence qui va suivre. Là. Alors, on va entendre Alain Fernex qui va nous parler de l'acquisition des savoirs.
Merci. Bien, bonjour à tous. Je démarre mon chronomètre. Je dois vous dire immédiatement que j'ai beaucoup souffert pour préparer cette présentation, et donc à votre tour de souffrir, mais ça ne dure que 30 minutes, donc rassurez-vous, ce n'est pas trop long. La question posée est extrêmement difficile, je crois que c'est vraiment un projet de recherche complet qui a été posé à travers la question. C'est la raison pour laquelle je vais essayer très modestement de poser certains problèmes et essayer de distinguer certains phénomènes. Je viens des sciences de l'éducation, étant passé par l'économie, le droit, et donc je vais essayer de rester sur un domaine que je connais un tout petit peu. Et dans la question qui était posée, il y avait celle de l'accès à la connaissance et au savoir, et puis une question qui venait immédiatement, celle du bouleversement qu'a introduit le numérique. Alors, il me semble que cette question première de l'accès à la connaissance et au savoir est trop importante pour conserver tout lié. Il me semble qu'il est important d'essayer de bien distinguer les choses je vais essayer précisément de poser les termes du problème tels que moi je les entends. Mon souci, c'est principalement d'essayer de donner des éléments de réflexion, des pistes de travail, car je crois qu'il y a véritablement un travail à fournir sur ces sujets. Je distingue deux questions, celle de la transmission des connaissances et dans un système éducatif qui a connu des transformations au cours des dernières années, quelques décennies. Je vais essayer de les catégoriser rapidement. Et puis je vois une deuxième question, bien évidemment, qui est celle de l'environnement numérique des étudiants ou des élèves et des objets techniques qui peuplent leur monde. Je vais donc aborder ces deux questions au travers de deux considérations générales. La première, c'est que, je vous l'ai dit, il est à peu près impossible d'apporter des réponses précises et assurées aux questions posées. Et donc, essayer, me semble-t-il, est important de poser quelques pistes pour l'analyse. Je vous donnerai aussi quelques références utiles. Mais surtout, ce que je voudrais vous faire entendre, c'est que je crois que nous disposons des bases méthodologiques et épistémologiques pour traiter des problèmes qui nous sont posés. Encore faut-il que nous les exhumions, que nous les utilisions utilement. Je viens du champ des sciences sociales. Je déplore que les sciences sociales soient en train de s'enfermer dans une spécialisation outrancière, alors qu'il y aurait des travaux à effectuer en mobilisant différents champs disciplinaires et différentes approches. Je disais qu'il existe des ressources. Je vous recommande la lecture d'un numéro de revue qui vient de sortir sur le sujet. Vous voyez pourquoi je disais que la mission qui m'était confiée était une mission très difficile. Il y a un numéro de revue entier, bien sûr que j'ai perdu la référence, la revue du CREN, c'est un laboratoire de Nantes. Je vais y arriver. Hein. Et ce laboratoire de Nantes a produit à la fin de 2013 un numéro de revue qui porte précisément sur cette question du numérique et des apprentissages. Et je vous renvoie, voilà, je l'ai retrouvé. C'est donc le numéro 18 de même janvier 2014, excusez-moi, je me suis trompé. Et le thème est des élèves et des savoirs à l'ère numérique, regard croisé. Vous avez à peu près une dizaine d'articles très bien conçus qui vous montrent différents questionnements sur le sujet qui est posé, à la fois des questionnements sur les usages, mais aussi des questionnements sur les objets techniques. Alors, c'est ce que je vais essayer de reprendre, mais vous voyez que je n'ai aucune prétention à dresser une synthèse, plutôt à poser des questions. Première considération, vous voyez bien que, intervenant du côté du sciences de l'éducation, nous sommes nécessairement intéressés par les questions d'apprentissage, par les questions de savoir et d'accès aux connaissances. Il me semble qu'il est important de partir de cette question des transformations intervenues dans le champ scolaire, car vous voyez bien que la question que l'on pose aujourd'hui ne porte sur un type d'individu, un type d'élève formé dans un type de système scolaire. Et je crois que la question qui est posée par les apprentissages et l'accès au savoir est une question qui est encore très largement indépendante de la question des objets techniques. Les objets techniques peuplent les écoles, mais après tout, il y a aussi des considérations qui ne relèvent pas de la question des techniques et qui reviennent à la question de la confrontation des individus à des savoirs et à des apprentissages. Alors je vais essayer de catégoriser très rapidement ces transformations survenues, sachant que les travaux qui portent sur le sujet montrent que les transformations qui sont opérées en France n'ont fait que suivre quelque chose qui avait été engagé, par exemple, aux États-Unis au début du XXe siècle et qui produit des résultats assez particuliers. Alors, excusez-moi, moi je vais dans les bibliothèques et je réexhume des livres anciens, mais je considère que ça a encore un peu d'intérêt, d'ailleurs souvent plus que beaucoup de choses que l'on peut lire aujourd'hui. Alors, quand on veut analyser les transformations d'un système éducatif, eh bien, et donc la question de l'accès aux connaissances et au savoir, eh bien, il y a un auteur français, alors certes de la fin du 19e, début 20e, c'est-à-dire du millénaire passé, hein, et qui s'est interrogé sur ce qu'étaient les transformations d'un système. Et Durkheim propose une analyse où il distingue au moins trois groupes de phénomènes qui permettent de comprendre à la fois le fonctionnement et les transformations des systèmes scolaires. Des éléments qui ont été bien largement débattus, critiqués dans la pensée, mais qui demeurent tout à fait intéressants pour comprendre ce qu'est un système scolaire. Le premier phénomène qui explique les transformations, dit Durkheim, le plus évident, c'est le constat qu'un système scolaire, une organisation scolaire, est quelque chose qui a à voir avec la société, la structure sociale et politique et économique d'une société. Et donc, qu'il y a, dit Durkheim, vous l'avez lu, vous le connaissez bien, qui fait qu'il y a en permanence une lutte pour la maîtrise et le contrôle des connaissances. Et vous lisez l'évolution pédagogique en France, et Durkheim montre durablement comment et combien des conflits se sont noués dans les différentes sphères autour de cet enjeu, qui détermine le type d'école et la construction de l'école. Durkheim, en deuxième point, montre également qu'il y a des conflits, des oppositions très fortes en permanence sur les moyens de transmission des connaissances. Et je vous renvoie toujours dans l'évolution pédagogique en France à la façon dont il interprète le débat entre les protestants et les jésuites, par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle, et la réaction des jésuites face à la montée de nouveaux types d'écoles et de pratiques de transmission. Mais ces deux dimensions n'épuisent pas le sujet, dit Durkheim, mais il montre qu'il est important aussi de s'intéresser aux disciplines scientifiques elles-mêmes et aux hiérarchies et au statut des disciplines, et bien évidemment qui se retrouvent dans la hiérarchie des facultés. Et vous allez voir que l'enjeu est tout à fait fort et présent, car je vais vous livrer, un siècle après Durkheim, un récent travail de l'Académie des sciences qui dit la chose suivante. Vous savez que les informaticiens peinent à se faire reconnaître comme discipline à part entière depuis des lustres. Or, l'Académie des sciences vient manifestement de trancher en disant la chose suivante en 2013. Le développement de l'informatique et de la numérisation d'informations bouleverse l'ensemble de la société, conduisent à ce qu'on appelle l'arrivée du monde numérique. Et donc, recommande l'Académie des sciences, il convient de reconnaître à la science informatique son rang de noblesse. La science informatique est devenue une discipline autonome, mais vous voyez que ça serait discutable d'un point de vue ici conceptuel, épistémologique. Qu'est-ce que ça veut dire, une discipline autonome? Donc, une discipline autonome avec ses formes de pensée, ses résultats propres, et donc elle est absolument indispensable d'être enseignée à l'école. Vous voyez que c'est une nouveauté. On va donc introduire systématiquement l'informatique. Et vous voyez que régulièrement sont bouleversées la hiérarchie des connaissances et des savoirs transmis la hiérarchie des disciplines. Vous voyez bien que ce ne sont pas des petits problèmes et que derrière, il y a des problèmes épistémologiques forts. C'est-à-dire que cette question-là est discutable au même titre qu'au Moyen-Âge. Vous avez un débat permanent sur les arts libéraux et les arts techniques et l'ordonnancement des arts libéraux. Vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de stabilisé et quelque chose qui n'est pas dénué de fondement et d'intérêt. Alors, je passe Et je vais essayer de vous montrer que de nombreux travaux récents en sociologie, en éducation, ont essayé de caractériser quelles étaient les transformations survenues dans le système scolaire, transformations en France qui interviennent à partir des années 60. Ces transformations dans la littérature, vous les retrouvez rassemblées sous trois principales formes, trois principaux ordres étroitement liés. Le premier serait l'émergence dans le système scolaire de la notion de compétence, très fortement, qui aurait comme lien, deuxième point, un mouvement de dissociation entre connaissance et action. Je vais y revenir, rassurez-vous. Et puis, une centration très forte dans le système éducatif sur l'activité de l'élève ou des élèves. Plusieurs conséquences à ces transformations. Il y a eu, de ce fait, un mouvement très profond de révision des programmes, mouvement de révision au cours duquel on a demandé aux savoirs, donc aux disciplines, de se justifier principalement, dorénavant, au regard de leur rôle fonctionnel. Dans quelle mesure permettent-elles de assurer à l'individu de remplir des fonctions, d'exercer des activités. A contrario, mais vous voyez que c'est des incidences très fortes, ça transforme profondément un système éducatif. A contrario, il y a eu rejet d'un système dans lequel les apprentissages scolaires étaient considérés comme la propre fin. La progression dans une discipline était considérée comme une fin en soi. Il y a eu une très grande importance attachée au principe d'activité, d'expérience individuelle et collective. La mise en activité des élèves est devenue l'alpha et l'oméga des systèmes éducatifs. Et là aussi, il y aurait beaucoup à discuter. Mais je vais le faire. Une forte émergence de l'interdisciplinarité comme solution pédagogique. Je peux vous donner un exemple récent. Vous le savez, nous sommes engagés dans la énième réforme des ex-IUFM devenus ESPE. Et donc, on est amené à réfléchir aux programmes que l'on va proposer aux futurs enseignants, donc aux programmes qui seront ceux des licences et des masters. Et vous vous trouvez face à des inspecteurs, pourtant issus de disciplines, des IPR, qui vous disent « L'université nous a fourni pendant trop longtemps des gens formés aux disciplines, on ne veut plus de ça, on veut des animateurs de classe. » Et donc, on veut des gens qui sachent animer une classe et faire conduire des expériences aux élèves. Et puis enfin, il y a eu des tentatives d'adaptation des contenus, de fortes tentatives d'adaptation des contenus aux besoins, intérêts et capacités des élèves. Et là, je vous en dirai un mot, car je conteste absolument cela, d'un point de vue de la liberté individuelle. Et on peut revenir à la Révolution française de ce point de vue-là. Alors, bien évidemment, ce propos, vous voyez bien, il est trop rapide. Il mériterait d'être beaucoup affiné. Il est évident que ça n'affecte pas les disciplines dans les mêmes proportions. Vous avez des disciplines qui résistent mieux à cela que d'autres. Les mathématiques résistent bien. Je vous laisse regarder aujourd'hui des manuels d'histoire et vous me direz si vous comprenez quelque chose en lisant un manuel d'histoire donné à un élève de primaire ou de secondaire ou de collège. Il y a des couleurs dans tous les sens, des belles images. Il n'y a aucune réflexion sémiotique. Au moins, il pourrait y avoir ça, mais il n'y a même pas ça. Et si vous êtes capable de faire de l'histoire avec ça, quant à la grammaire, etc., on pourrait en parler longuement. Alors, dans un premier temps, ce que montre la littérature sur le sujet, c'est que cette mise en avant de l'activité de l'élève semble relever du bon sens, puisqu'après tout, qui pourrait contester l'idée que il convient, dans un système d'apprentissage, que l'apprenant soit actif. Et précisément, cette question de l'activité a rencontré un écho, y compris chez quelqu'un comme Popper, qui, avant d'être un épistémologue célèbre, a été quelqu'un qui a travaillé dans un organisme autrichien qui s'intéressait aux apprentissages, et où trouvait chez Popper une réflexion, précisément, où Popper montre l'intérêt de l'activité. Et Popper appelle apprentissage passif, il appelle ça l'esprit sot, au sens du sot pour puiser l'eau, hein, bien sûr. Et puis il appelle ça aussi l'œil de l'esprit, et il donne plusieurs considérations qui militeraient en faveur d'un apprentissage qui porterait beaucoup plus sur l'activité. Popper dit que l'esprit humain n'est pas une entité destinée à refléter des objets intelligibles, un effet miroir, à simplement les absorber en les contemplant. Il dit également que le cerveau humain est un organe dont la finalité, vous pouvez le lire, hein, est d'interagir avec la, d'interagir avec les objets, et ceci de manière critique. Et donc, vous voyez qu'une connaissance ne s'acquiert pas simplement par la contemplation, mais ça aussi, ça se discute. Et enfin, qu'il est vain, dit Popper, dans plusieurs textes, de vouloir instruire en donnant à voir la connaissance, hein, à travers, par exemple, un cours magistral passif, même si ce cours recherche à être très ordonné, à partir du plus simple pour aller vers le plus complexe, s'intéresse, se préoccupe de la question de la transmission. Popper dit « c'est de nature à générer l'ennui ». Au passage, vous voyez qu'il y a là une critique des pédagogies, des modes de transmission dits classiques, mais vous observerez qu'on pourrait longuement débattre de ce sujet, car il faudra m'expliquer un jour en quoi l'apprentissage de la grammaire au Moyen-Âge, par exemple, est un exercice passif, puisque si vous regardez bien tous les travaux qui portent sur la grammaire, le latin, vous verrez que l'exercice de l'élève était toujours présent, toujours, c'est-à-dire c'était vraiment de la manipulation d'objets en permanence, et il faudra m'expliquer où était la passivité de l'élève. Mais restons sur ces pédagogies modernes tournées sur l'activité. Popper, après avoir dressé la critique de ce qu'il appelle l'esprit sot ou cet œil de l'esprit, donc les pédagogies qualifiées de passives, est encore plus virulent contre la voie moderne. Et pas seulement Popper, hein, mais j'ai relevé des travaux chez lui, c'est pour ça que je vous en parle. Cette voie est encore plus contestable pour les raisons suivantes. Il y a, dit-il, et disent beaucoup d'auteurs, un rejet de la présentation à l'apprenant d'un savoir qui serait déjà constitué, préexistant, et ces pédagogies modernes prennent appui sur l'idée qu'après tout, il appartient à chacun de reconstruire soi-même le savoir. Qu'il y a donc intérêt à multiplier les expériences, c'est pour ça que nos élèves dans les écoles font beaucoup d'expériences, expériences d'ailleurs dans la relation aux choses, aux objets et aux autres. C'est une pratique donc qui est non transmissive, le savoir est conservé à l'écart, tout au moins ça n'est pas l'élément central. Et ce qui est privilégié, c'est les interactions de l'élève avec les autres, avec l'enseignant. Mais vous voyez bien que ça ne dit pas grand-chose sur la rencontre avec le monde des connaissances structurées, organisées. Un des éléments que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a ici un positionnement artificiel de l'élève qui est censé permettre la reconstruction individuelle et ou collective de la connaissance. Au passage, vous observerez que ça, on pourrait trouver certains traits que l'on avait déjà présents chez quelqu'un comme Rousseau, rappelez-vous, qui considérait l'éducation négative, c'est-à-dire la non-rencontre avec les objets de savoir, mais Rousseau avait une philosophie un peu plus solide que ce qu'il y a aujourd'hui. Et Popper, mais à nouveau je le prends lui parce que je le trouve intéressant, mais on pourrait citer beaucoup d'autres, dégage trois principales critiques par rapport à cette vision non, très peu transmissive, trois défauts majeurs de cette pédagogie que je vous ai indiqués ici. Elle est subjective, ou elle a des fondements subjectifs, elle est inductive, dit Popper, or ça conduit à une impasse, et elle est qualifiée de psychologique. Alors, avant de lire la citation, je vous livre une explication de la chose. Elle est subjective, dit Popper, car elle fait de l'expérience vécue, éventuellement suivie d'une mise en commun avec le collectif ou l'enseignant, la modalité privilégiée d'accès à la connaissance. Or, la connaissance existe indépendamment du sujet. Et donc, elle pose le problème de la rencontre avec la connaissance objective existante. Elle est inductive, car elle attend de l'élève qu'il tire la connaissance d'une situation empirique. Or, toute l'épistémologie popérienne a montré que c'était strictement impossible. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que nous avons les éléments épistémologiques pour travailler ces questions, nous les avons bien, encore faut-il les utiliser. C'est-à-dire, encore faut-il rebâtir des réflexions et des théories en essayant de mettre à disposition ce dont nous disposons. Enfin, elle est psychologiste dans la mesure où elle, elle conduit à une pédagogie dominée par une vision mentaliste du problème de l'apprentissage, alors que le problème principal est un problème théorique de rencontre d'un individu avec de la connaissance structurée et de la manière dont il s'empare de cette connaissance. Et je vous laisse lire la citation de Popper que je trouve remarquable. Popper vous dit que, et ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait discutable d'un point de vue épistémologique, mais à nouveau, vous voyez bien qu'il y a besoin de travailler tout simplement ces questions-là, car elles ne vont pas de soi. On a tendance aujourd'hui à passer trop rapidement, trop facilement sur ces questions. Popper dit, à l'issue de ses travaux, qu'on ne peut pas tirer de théorie à partir des expériences, les théories ne peuvent être qu'inventées. Et il ajoute de manière assez amusante, inventées par les plus grands chimistes et rarement par les élèves. Et les expériences peuvent, dans le meilleur des cas, jouer le rôle de test, ce qui peut être intéressant dans une classe. C'est une fois la confrontation avec la connaissance, de tester la validité des théories et leur pertinence et leur force. Ça, oui, mais prétendre faire redécouvrir aux élèves l'histoire, la grammaire, par l'expérience propre, n'a strictement aucun sens. Et vous voyez, Popper qui dit, j'insiste sur la pensée critique, par opposition au rôle de l'intuition, de la perception et de l'expérience. Et donc, ce sont des travaux qu'il faut utiliser. Je contrôle mon temps. Excusez-moi. Bon, donc j'avance. Pour conclure sur ce point, voyez que cette évolution qui s'est produite dans le système français dans les années 60, je le disais tout à l'heure, aux États-Unis dans les années au tournant du siècle, du 20e siècle, a des incidences très fortes, y compris en termes de fonctionnement de l'école. On demande à l'école de gérer une plus grande hétérogénéité des publics et en même temps, on lui a reproché à cette école de produire des inégalités car on regardait les effets d'intégration sociale et en disant mais les élèves s'intègrent différemment et par ailleurs n'ont pas la même relation à l'école, certains réussissent, certains échouent. Et de ce fait, on a privilégié dans le système scolaire des méthodes et des voies consistant à partir du besoin des élèves, des particularités des élèves, là où, au contraire, de mon point de vue, il convenait d'être très strict sur l'exigence de l'accès aux connaissances et aux savoirs, car vous aurez du mal à me convaincre qu'il y aurait des savoirs et des connaissances différentes selon les individus. Je rappelle, à la Révolution française, vous avez eu un grand débat sur le sujet et vous aviez des auteurs qui opposaient la nation à la liberté individuelle. Ce n'est pas forcément cela qu'on gagnait, mais je vous renvoie aux travaux de Condorcet en particulier. Alors, j'en viens à un deuxième temps du propos, car voyez bien que, bien évidemment, tout cela est profondément heurté par la question des techniques, des objets techniques qui peuplent dorénavant, y compris les écoles, et donc qui pose des questions à l'organisation scolaire, à la formation, à la transmission des connaissances. Alors, premièrement, je vous renvoie à la lecture de ce numéro de la revue du CREN, de cette revue nantaise que vous trouverez en ligne, c'est magnifique, et véritablement qui cherche à faire une synthèse des travaux qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années sur les sujets. Vous en doutez, les travaux en sociologie, en sciences de l'éducation, vont porter principalement sur la question des compétences informatiques et des usages de ces compétences dans le champ scolaire. Et là, j'ai repris l'article introductif de la revue que je vous ai cité, où les auteurs montrent qu'il y a, dans les discussions des chercheurs sur ces questions, deux orientations très distinctes, deux voies très distinctes, sachant que on peut penser que c'est deux voies un peu extrêmes et qu'il y a sans doute entre les deux beaucoup d'interstices. Deux voies extrêmes, en tout cas, qui se dégagent. Une première qui consiste à considérer que les natifs numériques, d'abord, ça serait une catégorie homogène, et dans le rapport aux techniques, ces natifs numériques développeraient des savoirs informels, principalement d'ailleurs hors de l'école, mais que ces savoirs informels trouveraient à s'employer dans le cadre des apprentissages. En fait, il y aurait une sorte de continuité assez simple et assez facile entre les deux univers. Inversement, dans le numéro de la revue que je vous ai indiqué, beaucoup d'auteurs montrent que il y a un constat très fort qui est dressé, et vous le verrez d'ailleurs bien étudié, sur les insuffisances de maîtrise des technologies par, ici, les élèves, et que ces insuffisances de maîtrise ne permettent pas, je reprends leur terme, un usage raisonné des techniques. Et par ailleurs, tous les articles montrent bien, me semble-t-il, qu'il n'y a pas de catégorie uniforme des natifs et que reviennent très fortement dans ces questions des considérations d'ordre, excusez-moi les termes bourdieusiens, mais de dotation en capital culturel, social, économique. Vous n'avez pas un public homogène en quoi que ce soit face à ces maîtrises techniques. La recommandation qui est faite, mais c'est peut-être parce que ce sont des gens, alors ils sont issus de plusieurs disciplines, mais ils sont pour la plupart enseignants-chercheurs, donc vous comprenez bien qu'ils cherchent aussi à faire l'article. Hein. Et donc la recommandation, c'est bien sûr que face à un problème, il faut former, bien sûr. Alors c'est là que ça devient très intéressant, besoin de former aux techniques, parce que précisément c'est une question qui se révèle extrêmement complexe. Et je voudrais, dans le temps qui me reste, vous en montrer deux éclairages. Là aussi, vous allez voir, j'exhume de l'ancien. Moi, je fréquente les bibliothèques, hein, je suis un public. Dans cet numéro de la revue, vous avez un travail d'un auteur qui s'appelle Georges-Louis Baron, qui est un spécialiste de la question des techniques dans l'enseignement, et que quelqu'un qui a un peu de bouteille, donc à qui on ne la fait pas. Alors, je vais très vite pour vous résumer, mais Georges-Louis Baron, dans l'article que vous lirez, vous dit ben, l'introduction des technologies à l'école, ça n'a rien de nouveau, et il retrace des expériences multiples conduites dans les classes avec la télévision. Vous ne m'empêcherez pas de placer là ici une banderille. On a une ministre qui découvre les MOOC et qui, vous savez, ces fameux enseignements ouverts à grande échelle, là, et Baron, et je le fais avec lui, s'amuse un peu en disant qu'il n'y a rien de très original au cours filmé, que ça n'a jamais qu'à peu près 20 ans d'existence. Comme l'usage d'ailleurs de l'ordinateur en milieu scolaire. Et dit-il, par ailleurs, ces MOOC reposent, alors c'est moderne, ça sera le nouveau truc pendant 5 ans avant qu'on passe à autre chose, hein. Reposent, dit-il, sur la scénarisation d'actions de formation très classiques, agrémentées de quelques possibilités nouvelles, d'avoir des infos en ligne, d'avoir de la communication entre pairs en simultané, ce qui doit être incontestablement le nec plus ultra de l'apprentissage. On réagit, on ne réfléchit pas. Mais c'est la conclusion à laquelle arrive Baron qui m'intéresse le plus. La conclusion de Baron, c'est de dire que cette utilisation des techniques dans le système scolaire sera forcément un processus lent et long. Et il donne plusieurs arguments pour étayer cette thèse. La première, c'est qu'il y a d'abord en priorité un besoin de formation technique. Et Baron suggère l'introduction, lui aussi, de cours d'informatique auprès des collégiens et même dans le primaire. Baron insiste très justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça boucle sur ce que disait Durkheim, c'est-à-dire que vous avez en permanence aussi dans un système scolaire un conflit entre les disciplines, un conflit qui est de nature épistémologique et qui est aussi de nature de conflit d'un rapport de force. Et donc, dit Baron, ce conflit peut générer à la fois des tensions, mais beaucoup de retard aussi. Vous avez typiquement une opposition qui porte ici entre l'informatique, les mathématiques. Bien évidemment, dit Baron, ces tensions vont générer des effets durables parce que le système éducatif est un système très structuré, hein, très robuste, et donc qui accepte lentement l'évolution. Baron note aussi une chose intéressante. Il dit, par ailleurs, l'introduction des technologies dans les écoles, en particulier des outils numériques, eh bien, perdra un peu de son charme, car tout ce qui arrive dans le milieu scolaire perd de son intérêt, de son originalité. C'est le côté très, très massif et lent du système. Et enfin, dit Baron, il est évident que les formes d'utilisation du numérique progresseront dans l'école, mais sous des formes qui sont encore très largement à définir. Alors, je vous renvoie là aussi à la revue. Vous avez de nombreux articles qui traitent de l'usage de dispositifs dans l'apprentissage des langues, dans les pratiques sportives, etc. Vous aurez une très bonne vue, bien meilleure que celle que je pourrais vous faire. Ce que je voudrais faire en conclusion, puisqu'il me reste à peu près 2 minutes, c'est la chose suivante. Je voudrais vous montrer que sur ces questions, On dispose là aussi de travaux très importants, mais qu'il faut aller rechercher, relire, retravailler. J'utilise ici un philosophe français qui, dans les années 40, 50, 60, s'est intéressé à ce qu'il a appelé les objets techniques. C'est Gilbert Simondon. Je vous encourage véritablement à lire cet auteur, car Simondon nous retrace nous dresse une perspective sur les techniques extrêmement intéressante. Le point de départ de Simondon est de considérer que, pour des raisons qu'il énonce et qu'il fait remonter aux Grecs, la culture humaine, dit-il, s'est construite durablement sur une exclusion des techniques, un mépris de l'outil. Je vous livre une phrase, c'est ce qu'il dit. Cette culture s'est bâtie sur une ignorance de la culture technique. Vous voyez bien, distincte, culture technique distincte de la culture scientifique et distincte de la culture, par exemple, des arts. Et ce que veut montrer Simondon dans son ouvrage, qui est très très difficile d'accès, que je vous ai amené, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques », ce que veut montrer Simondon, c'est que cette exclusion représente ce qu'il appelle un danger pour la culture, car, dit-il, en excluant la technique, en la déshumanisant, on contribue à en faire simplement un instrument, c'est-à-dire à appauvrir le sens humain de l'objet. Alors, je vais aller très vite, mais simplement pour vous dire que ce que veut montrer Simondon, mais c'est vraiment difficile, c'est pour ça que je préfère juste introduire et vous renvoyer à des travaux sur le sujet, à la lecture de Simondon même, c'est encore plus sûr. L'objet technique pour Simondon, c'est un objet qui connaît ce qu'il appelle un processus d'individuation, c'est-à-dire quelque chose qui devient un objet, la définition capable de créer un milieu produisant des ressources de disponibilité. Vous avez l'exemple, par exemple, avec une machine, un ordinateur, permettant la polyvalence, l'interaction avec les autres objets, avec le reste du monde. Et ce que veut montrer Simondon, en analysant, par exemple, longuement les moteurs, eh bien, c'est que ces objets qui viennent peupler le monde humain sont des objets qui transforment l'environnement de l'homme et qui transforment ses rapports avec la nature et ses rapports avec les autres hommes. Cette analyse, alors, il faudrait beaucoup fouiller, mais conduit à un élément principal, me semble-t-il, quelque chose que je voudrais vraiment que vous reteniez bien. C'est la conclusion de Simondon, c'est que la vision des objets techniques est dominée par une visée utilitaire. À quoi ça sert? Quelles sont les fins? Or, dit Simondon, ça n'est pas ça qui est important. Bien sûr qu'il faut étudier les fins, les usages, mais ce n'est pas ça. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre le fonctionnement, comment fonctionnent les objets techniques qui nous environnent, et, car, dit-il, la compréhension de ces objets techniques, c'est ce qui nous permet, c'est la possibilité aux hommes d'explorer le monde, d'explorer de manière nouvelle le monde. Alors, j'avais prévu de vous en lire un passage, mais je ne peux pas. Et puis, bien sûr, aussi, vous l'avez compris, s'intéresser, c'est le troisième point, sur les attitudes des hommes face à ces objets techniques qui peuplent leur environnement. Alors, je termine là. Cette analyse comporte de fortes implications, vous en doutez, en termes de formation. L'objet technique, un moteur, Simondon a des descriptions très, 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 très sophistiquées de comment fonctionne, par exemple, une centrale électrique, etc. Ces objets techniques, qui portent en lui un fonctionnement opératoire, eh bien, dit Simondon, cet objet technique comporte à la base, comme possibilité d'existence, un acte d'invention. L'objet technique est inventé. L'invention est définie comme une opération mentale qui est effectuée par un inventeur. Et, dit Simondon, cet acte d'invention relève, est comparable à la production d'un savoir scientifique. Et vous comprenez bien la conclusion. Si c'est bien un acte d'invention, alors il peut être communiqué, il peut être transmis, il autorise la participation. Et la conclusion à laquelle arrive Simondon, c'est qu'il est essentiel de développer une culture technique. Mais vous voyez que c'est une culture de la compréhension du fonctionnement des objets et pas des usages, au même titre qu'il est important d'accéder à une culture scientifique. Voilà. Beaucoup de choses à vous dire sur Simondon, mais pas le temps, vous le lirez. Donc, le mode d'existence des objets techniques, un ouvrage tout à fait passionnant, même très difficile d'abord.
Merci. Donc, merci Alain Fernex. On a un moment là pour les questions, donc les questions qui portent sur la conférence introductive et sur cette conférence. Voilà.
Bonjour, oui, j'ai une question pour Olivier Hertzschild concernant la notion de bien commun et de la bibliothèque comme lieu commun. Est-ce qu'il pourrait brièvement nous faire une petite, description des modes de fonctionnement dans l'ère du papier et dans l'ère numérique, des possibilités de fonctionnement de cette notion de bien commun?
Oui, il va essayer de le faire.
Qu'est-ce que change le fait de passer des collections en mode analogique, dont la mise à disposition en bibliothèque était connue depuis longtemps, comment dans le numérique, à la fois, il y a des possibilités qui sont démultipliées et quels sont paradoxalement les freins que l'on peut rencontrer, ouais. Et comment les éviter?
Alors, les principaux freins, effectivement, au déploiement de ressources appartenant à ce champ qu'on appelle celui des biens communs, ce sont les freins que j'ai essayé de montrer sur la fin et qui tiennent principalement aux questions du partage et de l'appropriation. C'est-à-dire qu'effectivement, avec le numérique, sur un certain nombre d'objets ou de produits culturels ou informationnels apparaissent un certain nombre de verrous. Alors ces verrous, ça peut être des DRM, c'est-à-dire des systèmes qui interdisent le copier-coller, qui interdisent le partage, qui interdisent le prêt au-delà d'un certain nombre d'exemplaires, et qui, en installant des verrous sur des biens qui pourtant sont des biens qui appartiennent pour l'essentiel d'entre eux, par exemple, au domaine public, qui nous font revenir 30 ans ou 100 ans en arrière dans le partage, la diffusion et l'appropriation possible de ces contenus-là. Donc le travail des bibliothèques, me semble-t-il, c'est précisément de faire un travail d'appropriation et de valorisation de ces ressources-là et de le faire dans un cycle de diffusion qui ne comporte pas de verrou à l'usage, c'est-à-dire qui, pour l'usager, ne soit pas des logiques contraignantes. En gros, pour faire simple, il faut que pour un document mis à disposition sur le site, quel qu'il soit, que ce soit une photographie, un texte, une thèse, etc., mis à disposition sur le site de ma bibliothèque, moi, en tant qu'usager, je n'ai pas à me poser la question du format, est-ce que j'ai la bonne tablette qui va me permettre de lire ce document. Il faut que moi, en tant qu'usager, je n'ai pas à me poser la question du droit. Est-ce que j'ai le droit de, une fois que j'aurai absorbé ou téléchargé ce document ou consulté, est-ce que j'ai le droit de le rediffuser, est-ce que j'ai le droit de le partager. Il faut que je n'ai pas, en tant qu'usager, à me poser la question effectivement du verrouillage. Donc il faut que tous ces aspects techniques soient autant que faire se peut gommés ou traités en amont pour qu'on soit uniquement sur le cœur de métier et sur ce qui fait la ligne de front entre le métier des bibliothèques et le désir des usagers, c'est-à-dire la possibilité de s'approprier, de rentrer dans un contenu quel qu'il soit et de le partager avec d'autres.
Je sais pas si... Oui, ça répond en partie à la question. On pourrait revenir aussi sur l'acquisition, puisque aujourd'hui, il y a des collections dont les bibliothèques ne peuvent pas, des documents qu'elles ne peuvent pas acquérir.
Oui. Alors oui, ça c'est un souci. Alors après, j'ai pas de réponse dans l'absolu, ou j'ai une réponse dans l'absolu qui va pas être satisfaisante. Mais si on regarde effectivement les collections telles qu'elles sont disponibles sur le web, un certain nombre de collections ne nécessitent pas nécessairement d'acquisition. Ce que je veux dire, c'est que le processus de médiation, de valorisation de ces collections, il doit se faire à côté de la ressource elle-même. Si cette ressource elle est présente physiquement dans les murs de la bibliothèque, ben voilà, on sait faire de la médiation. Si cette ressource est une ressource distante, il faut, à mon avis, que les bibliothèques aillent assurer leur mission de médiation au plus près de ces ressources et au plus près de là où sont les usagers. C'est pour ça que je présentais le triangle éclaté de la médiation. Donc en gros, là aussi, pour le dire très simplement, si ça discute d'un documentaire sur un ethnologue qui a fait le tour des États-Unis au début du siècle pour collecter sur cassette des enregistrements de vieux bluesmen, si ça discute sur YouTube de cette collection-là, eh bien, il faut aller sur YouTube discuter de cette collection. Et après, se poser effectivement la question de l'intérêt et de la possibilité de rapatrier physiquement une copie de cette collection, éventuellement à l'intérieur de l'entité bibliothèque numérique. Mais à mon avis, à partir du moment où le travail de médiation se fait à proximité des ressources, ça fluidifie considérablement le reste de la chaîne et le processus de traitement et d'appropriation, à mon avis.
Oui, oui, je vais peut-être un petit peu loin, mais pour M. Fernex, du coup, est-ce que vous allez jusqu'à penser le rôle des bibliothèques dans cette acquisition d'un savoir technique ?
Je vais me réfugier pour vous répondre chez Simondon. Simondon explique longuement, par exemple, et valorise l'effort qui avait été fait au XVIIIe, l'effort encyclopédique, pour justement essayer de mettre à disposition de tous la connaissance technique sous forme d'écrits, mais aussi, dit-il, de planches, d'explications. C'est-à-dire l'idée qui était très présente au moment de l'encyclopédie était de faire que les techniques, alors avec l'état des techniques qui était celui du 18e, que cet état des techniques soit accessible à tous, que finalement on sorte d'un usage, dit Simondon, intuitif ou de premier niveau des techniques, et que l'on puisse véritablement en comprendre la logique. Car voyez bien ce qui est essentiel avec cette idée des objets techniques, c'est que un objet technique est pensé par un individu, est construit, élaboré alors par une chaîne d'individus, mais que, bien évidemment, ce qui est très important à la fin, c'est qu'il se détache de l'individu qu'il a créé et qu'il permet d'autres emplois. C'est en cela qu'un objet technique permet une exploration nouvelle du monde, hein, véritablement. Et il me semble que, pour répondre à votre question, il est important aujourd'hui, surtout avec cette très forte... Cette importance des techniques, des objets techniques, y compris numériques, dans le monde, il est important de former à cela. Et de mon point de vue, mais là, moi, je suis très classique, je considère que les bibliothèques sont le lieu où l'on devrait rassembler, réunir, mais c'est déjà fait, hein, de fait, de réunir les conditions pour développer cet accès à la culture technique. Mais voyez bien que ça nécessite à la fois d'avoir les ressources disponibles, mais aussi, bien évidemment, et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, bien évidemment, d'avoir aussi les formations qui vont avec. De ce point de vue-là, je pense qu'il y aurait besoin urgent en France de réfléchir à une rénovation profonde du collège qui deviendrait un collège polytechnique, c'est-à-dire remettre véritablement cette culture technique au cœur de la culture, au même titre que la culture ou les sciences. Mais vous voyez que je ne réponds pas à votre question. Je pense qu'on a tous les éléments. À nouveau, on a tous les éléments pour bien faire. Simplement, ici, c'est véritablement comprendre les raisons qui ont fait que cette culture technique a été rejetée durablement. Simondon l'explique assez bien, à la fois chez les Grecs, à la fois au XIXe siècle. Mais que, et je conclue juste là-dessus, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas s'arrêter simplement à regarder les usages. Car sinon, ça veut dire qu'on s'arrête à considérer des usages de nature intuitive, là où l'intuition a de la place, mais ça n'est pas le cœur de l'affaire.
Merci. Une dernière question pour cette séquence.
Bonjour. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des sciences de l'éducation, mais je m'interrogeais aussi sur le point de vue qu'on peut adopter quand on aborde cette question, qui est finalement un point de vue relativement occidental, et si la question des... Si la question des nouvelles technologies et des objets techniques ne nous permettait pas plus facilement d'avoir un regard sur la façon dont on apprend dans le reste du monde, notamment parce que l'introduction de ces objets sur des terrains où tout est à construire en matière de pédagogie ne laisse pas d'interroger. Et je pense que ce qui nous interpelle aussi, c'est qu'avec le numérique, on a des formes de mondialisation, d'accès à des formes d'accès au savoir qui sont différentes de celles qu'on a l'habitude de développer dans le monde occidental. Et je pense que c'est un moyen ça complexifie la question. Et en même temps, voilà, ça ouvre aussi le débat.
Oui, je suis parfaitement en accord avec vous. Et vous voyez, ça renvoie à des choses anciennes. Pensez qu'au XVIIe siècle, vous avez un auteur d'origine tchèque qui s'appelle Comenius, qui rêve d'une pansophie, une instruction universelle. Et donc, vous voyez bien que ça remet en cause complètement le cadre national de la vision des systèmes éducatifs que l'on a, une pansophie dont Comenius dit qu'elle repose principalement à l'origine sur une langue universelle. Ici, vous avez dorénavant réuni les matériaux pour effectivement approcher cette idée qui dépasse les cadres nationaux, mais vous voyez bien qu'on en est encore loin. Et il ne faut jamais perdre de vue là, les apports des sociologues qui montrent que les systèmes éducatifs sont aussi des lieux de tension, hein, de conflit en permanence. On le gomme, on le méconnaît à l'heure actuelle, mais vous avez ces tensions qui sont d'ordre épistémologique, qui sont d'ordre scientifique, mais qui sont d'ordre aussi de pouvoir dans les systèmes scolaires. Et de ce point de vue-là, ça nous ramène quand même aux cadres nationaux, me semble-t-il.
Merci. Merci beaucoup pour cette première séquence.